Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Les yeux ont des oreilles pour ce 48e épisode. Nous vous proposons chaque semaine une traversée de textes mis en voix et de créations sonores autour de grandes thématiques que vous pourrez découvrir sur le site de Transistor. Après la lecture intégrale de Histoire d'une fille de ferme de Guy de Maupassant que Nathanaël, moi-même, vous avez proposé il y a de cela 2 semaines, nous laissons désormais la main à Nicolas, étudiant en géographie humaine, qui s'apprête à vous faire découvrir L'île à midi, une nouvelle de Julio Cortázar, publiée dans Tous les feux, Le feu, en 1966. Nous vous souhaitons une belle écoute et vous laissons tout à vos yeux et surtout vos oreilles.
L'île à midi. Une nouvelle de Julio Cortázar. La première fois qu'il vit l'île, Marigny était courtoisement penché au-dessus d'un des sièges de gauche, en train de baisser la table de plastique pour y installer le plateau du déjeuner. La passagère l'avait déjà regardé plusieurs fois pendant qu'il allait et venait avec des revues et des verres de whisky. Marigny s'attardait à fixer la table, se demandant avec ennui si cela vaudrait la peine de répondre au regard insistant de la passagère, une américaine comme il y en a tant. Lorsque, dans l'ovale bleu du hublot, entra le bord de l'île. La frange dorée de la plage, les collines qui montaient vers le haut plateau désolé. Marigny rectifia la position défectueuse du verre de bière et sourit à la passagère. « Les îles grecques, » dit-il. « Oh yes, Greece, » répondit l'américaine avec un intérêt qui sonnait faux. Une sonnerie retentit et le steward se redressa sans abandonner le sourire professionnel qui errait sur ses lèvres fines. Il alla s'occuper d'un couple syrien qui voulait des jus de tomates, mais dans la queue de l'avion, il s'accorda quelques secondes pour regarder une autre fois en bas. L'île était petite et solitaire, et la mer Égée la bordait d'un bleu intense, qu'exaltait la bordure d'un blanc éclatant et comme pétrifié, qui, en bas, était de l'écume battant les récifs et les calanques. Marigny vit que les plages désertes couraient du nord au sud. Le reste était montagne tombant à pic dans la mer. Une île rocheuse et déserte, bien que la tache gris de plomb sur la plage du nord eût bien pu être une maison. Peut-être un groupe de vieilles maisons. Il se mit à ouvrir la boîte de jus de fruits, et quand il se redressa, l'île s'effaça du hublot. Il ne restait que la mer, un horizon vert interminable. Marigny était ravi que l'on l'eût affecté à la ligne Rome-Téhéran parce que les passagers étaient moins lugubres que sur la ligne du Nord et que les jeunes filles avaient toujours l'air heureuses de partir en Orient ou de connaître l'Italie. 4 jours plus tard, alors qu'il aidait un petit garçon à retrouver sa cuillère pour manger son dessert, il découvrit à nouveau le rivage de l'île. Il y avait une différence de 8 minutes dans l'horaire. Mais quand il se pencha à un hublot du fond, aucun doute possible, l'île avait une forme reconnaissable entre 1000, comme une tortue qui sortirait à peine ses pattes de l'eau. Il la regarda jusqu'à ce que l'on l'appelle, sûr cette fois que la tache grise était un groupe de maisons. Il parvint même à distinguer le dessin de quelques champs cultivés qui descendaient jusqu'à la plage. À l'escale de Beyrouth, il regarda l'atlas de l'hôtesse et se demanda s'il ne serait pas Horos. Le radiotélégraphiste, un Français indifférent, s'étonna de son intérêt pour l'île. « Toutes ces îles se ressemblent, ça fait 2 ans que je fais la ligne et je n'y ai jamais prêté attention. »« Oui, montrez-la-moi la prochaine fois. » Ce n'était pas Horos mais Xyros, une des nombreuses îles en marge des circuits touristiques. « Mais ça ne va pas durer, » lui dit l'hôtesse, tandis qu'ils buvaient un verre ensemble à Rome. « Dépêche-toi si tu comptes y aller. Les hordes déferleront sous peu. Gengis Cook veille. » Marini continua à penser à son île, la regardant s'il se trouvait à côté d'un hublot et s'il avait le temps. Puis il haussait les épaules. Tout cela n'avait pas grand sens. Voler 3 fois par semaine au-dessus de Xyros, c'était aussi irréel que de rêver 3 fois par semaine qu'il volait au-dessus de Xyros à midi. Tout était faussé par cette vision inutile régulière. Sauf peut-être le désir qu'elle se répète. La montre consultée avant midi, le bref poignant contact avec l'éblouissante franche blanche au bord du bleu presque noir et les maisons où les pêcheurs devaient à peine lever les yeux pour suivre le passage de cette autre irréalité. 8 ou 9 semaines plus tard, quand on lui proposait la ligne de New York avec tous ses avantages, Marini se dit que c'était le moment d'en finir avec cette manie innocente et fastidieuse. Il avait dans sa poche le livre où un vague géographe au nom levantin donnait sur Xyros plus de détails que n'en comportaient les guides habituels. Il donna une réponse négative, s'écoutant parler comme de loin, et après avoir esquivé la surprise scandalisée d'un chef hiérarchique et de 2 secrétaires, il alla à la cantine de la compagnie où l'attendait Carla. Il ne fit pas attention à sa déception étonnée. La côte sud de Xyros était inhabitable, mais à l'ouest il restait des traces d'une colonie lydienne, ou peut-être crétoise, et le professeur Goldman y avait trouvé 2 colonnes taillées avec des hiéroglyphes que les pêcheurs employaient comme pilotis de la petite jetée. Carla avait mal à la tête et le quitta presque aussitôt. La pêche des poulpes était la principale ressource de la poignée d'habitants. Tous les 5 jours, un bateau passait ramasser les poulpes et laisser quelques provisions. À l'agence de voyage, on lui dit qu'il lui faudrait fréter un bateau à Rhinos, à moins que la felouque qui prenait la pêche ne puisse l'emmener, mais cela, Marini ne le saurait qu'à Rhinos, où l'agence n'avait pas de correspondant. De toute façon, l'idée de passer quelques jours dans l'île n'était qu'un projet pour les vacances de juin. Dans les semaines qui suivirent, il lui fallut remplacer White sur la ligne de Tunis, puis une grève éclata et Carla partit chez ses sœurs à Palerme. Marini élut domicile dans un hôtel près de la Piazza Navona où il y avait des libraires d'occasion. Il passait vaguement son temps à chercher des livres sur la Grèce, il feuilletait parfois un manuel de conversation. Le mot « Calimera » lui plut beaucoup. Il l'essaya sur une fille rousse dans une boîte de nuit, coucha avec elle, apprit l'existence de son grand-père à Odos et ses maux de gorge inexplicables. À Rome, il se mit à pleuvoir. Tania l'attendait toujours à Beyrouth. Il y avait d'autres histoires, toujours parents ou maladies. Un jour, ce fut de nouveau la ligne de Téhéran, l'île à midi. Marini resta si longtemps collé au hublot que la nouvelle hôtesse le traita de mauvais camarade et fit le compte des plateaux qu'elle avait servis. Ce soir-là, Marini invita l'hôtesse à dîner au Firouz et il n'eut pas grand mal à se faire pardonner sa distraction du matin. Lucia lui conseilla de se faire couper les cheveux à l'américaine, lui parla un petit peu de Xyros, mais comprit vite qu'elle préférait le vodka tonique du Hilton. Le temps passait en choses comme ça, en une infinité de plateaux de repas, chacun accompagné du sourire auquel avait droit le passager. Au retour, l'avion passait au-dessus de Xyros à 8 heures du matin. Le soleil tapait contre les hublots de gauche et laissait à peine entrevoir la tortue dorée. Marigny préférait attendre les midis du voyage d'aller, sachant qu'il pourrait alors rester une longue minute près du hublot, pendant que Lucia, et après Félissa, s'occupaient un peu ironiquement du travail. Une fois, il prit une photo de Xyros, mais elle était floue. Il savait à présent certaines choses sur l'île. Il avait souligné sur 2 ou 3 livres les rares mentions qu'on en faisait. Félissa lui rapporta que les pilotes l'appelaient le fou de l'île, mais cela lui était égal, car là venait de lui écrire qu'elle avait décidé de ne pas garder l'enfant, et Marigny lui envoya 2 mois de salaire et pensa qu'il n'aurait plus assez d'argent pour ses vacances. Carla accepta l'argent et lui fit savoir par une amie qu'elle se marierait probablement avec le dentiste de Trévise. Tout cela avait si peu d'importance à midi, les lundis, jeudis et samedis, et 2 fois par mois le dimanche. Avec le temps, il s'aperçut que la seule qui comprenait un peu était Félissa. Il y avait un accord tacite entre eux pour qu'elle s'occupât du service à midi dès qu'il s'installait près d'un hublot de l'arrière. L'île était visible pendant quelques minutes, mais l'air était toujours si limpide et la mer la découpait avec une cruauté si implacable que de petits détails allaient s'ajouter chaque fois au souvenir du précédent passage. La tache verte du promontoire du Nord, les maisons gris de plomb, les filets séchant sur le sable. Lorsque les filets n'y étaient pas, Marigny en ressentait comme un manque, presque une offense. Il eut envie de filmer le passage de l'île pour le repasser à son hôtel, mais cela ne valait pas la peine d'acheter une caméra à 1 mois des vacances. Il ne tenait pas trop le compte des jours, parfois c'était Tania à Beyrouth, parfois Félissa à Téhéran, presque toujours son plus jeune frère à Rome, le tout un peu flou, facile et cordial et comme en remplacement d'autres choses, remplissant les heures avant ou après les vols, et pendant le vol, tout était aussi flou, facile et stupide jusqu'au moment où il pouvait s'approcher du hublot arrière et sentir le verre froid comme la vitre d'un aquarium où se déplaçait lentement la tortue dorée dans l'azur épais.
Το χέρι του κοκάλωσε το κρύο είναι βαρύ. Τα μάτια του δεν έχουν φως μα προσπαθεί να δει. Στεγνή αλήνα τη μορφή τον ήλιο καθερεί. Το ψωμί μόνο με μια δραχμή. Δικιά θα είναι η έφη βαλμένη απ' την ψυχή. Δικό και το χαμόγελο στο ξένιαστο παιδί. Γιατί κάποιο πάλι στη γωνιά αυτός θα κατερεί. Το χέρι του αυτόνοντας να πάρει μια δραχμή. Και να ρωτιέμαι πως μπορεί να θέλει τη ζωή.
Ce jour-là, les filets se dessinaient avec précision sur le sable et Marigny aurait juré que le point noir à gauche, au bord de la mer, c'était un pêcheur qui devait regarder l'avion. Calimera, pensa-t-il absurdement. Cela n'avait pas de sens d'attendre plus longtemps. Mario Merolis lui prêterait de l'argent qui lui manquait pour le voyage et en moins de 3 jours, il serait à Xiros. Les lèvres collées au hublot, il sourit en pensant qu'il grimperait jusqu'à la tache verte, qu'il entrerait nu dans la mer des calanques du nord, qu'il pêcherait des poulpes avec les hommes de l'île, en se faisant comprendre par des gestes et par des rires. Rien n'était difficile une fois décidé. Un train de nuit, un premier bateau, un autre bateau vieux et sale, l'escale à Rhinos, la négociation interminable avec le patron de la felouque, la nuit sur le pont collé aux étoiles, le goût de l'anis et du mouton, l'aube au milieu des îles. Il débarqua aux premières lueurs du jour et le capitaine le présenta à un vieux qui devait être le patriarche. Clayos le prit par la main gauche et lui parla lentement en le regardant dans les yeux. Deux jeunes gens les rejoignirent et Marini comprit qu'ils étaient les fils de Clayos. Le capitaine du caïque épuisait son peu d'anglais. 20 habitants, poulpes, pêche, 5 maisons, visiteurs italiens paieraient son logement à Clayos. Les jeunes gens rirent quand Clayos discuta drachme. Marini aussi, déjà ami des deux plus jeunes et regardant monter le soleil sur une mer moins sombre que vue d'en haut, une chambre propre et pauvre, un pot d'eau, odeur de sauge et de cuir tanné. On le laissa pour aller chercher le caïque et après avoir enlevé à la volée ses vêtements de voyage et avoir mis un short et des sandales, il s'enfonça dans l'île. On ne voyait encore personne, le soleil prenait lentement son essor et de la garrigue montait une odeur subtile, un peu acide, mêlée à l'iode du vent. Il devait être 10 heures quand il atteignit le promontoire nord et reconnut la plus grande des calanques. Il aurait bien aimé se baigner sur la plage du sable, mais il préférait être seul. L'île l'envahissait et l'aspirait avec une telle intimité qu'il n'était pas capable de penser ou de choisir. Il avait déjà la peau brûlée de soleil et de vent quand il se déshabilla pour plonger du haut d'un rocher. L'eau était froide et cela lui fit du bien. Il se laissa entraîner par des courants insidieux jusqu'à l'entrée d'une grotte, repartit vers la haute mer, s'abandonna sur le dos, accepta tout en un seul acte de conciliation qui était aussi un nom pour le futur. Il sut alors sans la moindre hésitation qu'il ne quitterait plus l'île, que d'une certaine façon il allait rester dans l'île pour toujours. Il parvint à imaginer son frère, Félissa, leur tête, quand ils apprendraient qu'il restait là pour vivre de la pêche sur un rocher solitaire. Il les avait déjà oubliés quand il fit demi-tour pour revenir vers la côte. Le soleil le sécha en un instant. Il descendit vers les maisons où 2 femmes le regardèrent, étonnées, avant de courir s'enfermer. Il fit un salut dans le vide et descendit vers les filets. Un des fils de Clayos l'attendait sur la plage et Marini lui montra la mer, l'invitant d'un geste. Le garçon hésita, puis partit en courant vers l'une des maisons et revint presque nu. Ils se jetèrent ensemble dans une mer déjà tiède, éblouissante sous le soleil de 11 heures. Pendant qu'ils se séchaient au soleil, Jonas se mit à nommer les choses. « Calimera !» dit Marini et le garçon fut pris de fou rire. Puis Marini répéta des mots nouveaux, en enseigna des Français et des Italiens. Le caïque disparaissait à l'horizon. Marini sentit qu'à présent il était vraiment seul dans l'île avec Clayos et les siens. Il laisserait passer quelques jours, paierait sa chambre et apprendrait à pêcher. Plus tard, quand il le connaîtrait bien, il leur ferait part de son projet de rester et de travailler avec eux. Il se leva, tendit la main à Jonas et repartit lentement en direction de la colline. La montée était escarpée. Et il grimpa en se ménageant des haltes, se retournant de temps en temps pour regarder les filets sur la plage, les silhouettes de femmes qui parlaient à Jonas avec animation et le regardaient du coin de l'œil en riant. Quand il atteignit la tache verte, il entra dans un monde où l'odeur du thym et de la sauge, le feu du soleil et le vent de la mer n'étaient plus qu'une seule et même matière. Marigny regarda sa montre, puis d'un geste agité, la fourra dans sa poche. Ce ne serait pas facile de tuer le vieil homme, mais ici, en haut, tout tendu du soleil et d'espace, il sentit que l'entreprise était possible. Il était à Xyros, là où il avait tant de fois désespéré de parvenir un jour. Il s'étendit sur le dos parmi les pierres chaudes, s'habitua à leurs arêtes enflammées et regarda verticalement le ciel. Au loin, lui parvint le bruit d'un moteur d'avion. Fermant les yeux, il se dit qu'il ne regarderait pas l'avion, qu'il ne se laisserait pas contaminer par le pire de lui-même qui allait passer de nouveau au-dessus de l'île. Mais dans l'abri de ses paupières, il imagina Félissa avec les plateaux et son remplaçant, Giorgio peut-être, ou quelque nouveau d'une autre ligne, quelqu'un qui sourirait aussi en apportant les bouteilles de vin ou le café. Incapable de lutter contre un si long passé, il ouvrit les yeux et se redressa, et au même moment il vit l'aile droite de l'avion presque au ras de sa tête, le changement de bruit des turbines, la chute presque verticale dans la mer. Il descendit à fond de train la colline, se heurtant aux rochers, s'écorchant aux épines. L'île lui cachait le lieu de la chute, mais il bifurqua avant d'arriver à la plage et par un raccourci franchit le premier contrefort de la colline et déboucha sur la plus petite plage. La queue de l'avion s'enfonçait, à 100 mètres de là, dans un silence total. Marigny prit son élan et se lança à l'eau, espérant encore que l'avion réapparaîtrait à la surface, mais on ne voyait plus que la molle ligne des vagues, une boîte de carton se balançant absurdement sur les lieux mêmes de la chute. Et, au dernier moment, alors que cela n'avait plus grand sens de continuer à nager là, une main hors de l'eau, à peine un instant, le temps que Marigny change de direction, plonge et attrape par les cheveux l'homme qui essayait de s'agripper à lui et avalait avec un bruit rauque l'air que Marigny lui laissait respirer sans trop s'approcher. Il le remorqua lentement jusqu'au rivage, prit dans ses bras le corps vêtu de blanc et l'étendit sur le sable en regardant le visage plein d'écume où la mort était déjà installée, la blessure béante à la gorge. À quoi bon la respiration artificielle, puisqu'à chaque convulsion, la blessure semblait s'ouvrir un peu plus. Elle était comme une bouche répugnante qui appelait Marigny, l'arrachait à son pauvre bonheur si court dans l'île, lui criait dans un flot de sang quelque chose qu'il n'était plus à même de comprendre. Les fils de Clayos arrivaient en courant et derrière eux les femmes. Quand Clayos arriva, les jeunes gens entouraient le corps étendu sur le sable. Sans comprendre comment il avait eu la force de nager jusqu'à la rive et de se traîner tout sanglant jusque-là. « Ferme-lui les yeux, » lui dit en pleurant une des femmes. Clayos regarda la mer, cherchant du regard un autre survivant, mais, comme d'habitude, ils étaient seuls dans l'île. Et le cadavre, aux yeux ouverts, était le seul nouveau parmi eux. Thank you.
Voilà, c'était donc le 48e épisode de Les yeux ont des oreilles, en compagnie de Nicolas, et présenté par Nathanaël, moi-même. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment sur nos ondes, et vous souhaitons une belle semaine, à la semaine prochaine, même endroit, même heure, et n'oubliez pas que vos yeux restent à l'écoute, et surtout, vos oreilles.